Une question au professeur Eto sur la question de l'abdication de l'empereur. Vous avez très bien fait l'analyse juridique, les possibilités ou l'impossibilité de démissionner, d'abdiquer plus exactement en invoquant la raison d'État, l'unité du pays, le symbole du Japon. En invoquant aussi, ça c'est les raisons juridiques, et les raisons politiques que vous avez invoquées, c'est plutôt la charge qui est très lourde pour un empereur vieillissant. Est-ce que, mis à part ces raisons-là, est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons plus profondes, non dites aux citoyens japonais, concernant la volonté de l'empereur d'abdiquer, mis à part qu'il est vieux, qu'il a les charges, qu'il pèse, etc., etc., hein, parce que pour nous occidentaux, ça paraît tellement difficile à comprendre.
Monsieur Eto ?
Oui, c'est une question peut-être, pour moi c'est très difficile à répondre. Moi aussi, et je ne comprends pas pourquoi il doit abdiquer maintenant. Oui. Pourquoi le peuple japonais sont à peu près 80% de peuples japonais sont d'accord à l'abdication. C'est une chose que je ne comprends jamais du tout. Parce que c'est un système, c'est un régime qu'on a introduit avec cette constitution. Alors, comment dire ? Il faut maintenir ce système pour l'instant. Si il faut bien réviser la constitution, on pourrait faire à d'autres occasions. On peut mettre à côté l'âge de l'empereur et puis on peut commencer n'importe quand, mais pas maintenant, je pense. C'était bien.
Alors, concernant de cette question, j'aimerais poser aussi moi-même une question. D'après, oui, moi aussi, je suis plutôt négative de ce changement de loi et éventuellement de la Constitution. Et vous avez présenté le sondage, résultat du sondage. Alors maintenant, beaucoup de peuples japonais est favorable pour cette abdication. Mais je crois que beaucoup de Japonais ignorent le système de régence que vous avez indiqué dans votre exposé. Alors, je ne comprends pas très bien pourquoi on n'utilise pas ce système de régence. Le peuple n'exprime pas très bien le défaut, problème de ce système de régence. Peut-être qu'ils ne savent pas très bien. Qu'est-ce que vous avez pensé à propos de ce système de régence ?
Oui, j'ai aussi la même question que vous. Oui, c'est un sondage très, comment dire,
naïf.
Et puis, qui veulent mener d'un tel sens, c'était déjà déterminé.
Oui.
Oui, c'est un sondage qui suit l'avis de l'empereur. Oui, l'opinion de l'empereur. Oui. Déjà, c'est une situation inconstitutionnelle, c'est-à-dire qui est contraire à l'article 4 de la Constitution. Même s'il ne dit pas que mon avis est une parole politique, mais même s'il n'utilise pas que c'est mon avis politique, mais à mon avis, c'est la même chose. Il a dit que c'est mon sentiment. Le sentiment, il a utilisé le mot sentiment le 8 août, mais même si c'est le mot, il a utilisé le mot sentiment, mais après ça, c'est récent, peut-être il y a une semaine, peut-être, le gouvernement a indiqué de l'installation de la réunion d'un comité pour discuter l'abdication vivante. Oui. Donc c'est très
comment dire, politisé.
Politisé, oui.
Merci. Y a-t-il d'autres questions à ce propos ? Oui, allez-y.
Oui, je vais dans le même sens. Je me pose la question sur... ça, c'est comme vous avez dit, les raisons de santé, les raisons, etc. Mais est-ce qu'on n'a pas le droit de lier ce problème de la volonté de vouloir d'abdiquer de l'empereur, qui n'a pas dit directement comme d'habitude, au problème, il y a 5 ou 10 ans, de la succession au Japon? Et tout le monde sait très bien, les Japonais, je pose la question, c'est pas seulement à notre collègue qui a parlé, mais aux Japonais en général, la question de succession au Japon, puisque maintenant, on sait très bien, il n'y a pas de succession mâle. Donc, est-ce que l'empereur ne serait pas beaucoup plus, réfléchi beaucoup plus que les Japonais sur ce problème, ou bien que les politiciens japonais sur ce problème, et il veut peut-être résoudre ce problème d'un coup, de deux pierres, un coup. Oui. C'est-à-dire remettre à la surface ce problème de la succession durant sa vie. Parce qu'on sait très bien que juste après, plus ou moins, la situation sera bloquée. Parce qu'il y a le prince héritier. Le prince héritier, il a une fille. Et une fille, ça pose des problèmes au Japon, n'est-ce pas? Donc, s'il arrive maintenant à mettre son fils ou bien son fils à venir, peut-être le problème il sera plus ou moins avancé. Est-ce que c'est pas dans ce sens? C'est-à-dire, moi, je pense, est-ce que c'est pas l'empereur du Japon, il a laissé que la tempête baisse 5 ans plus tard, que lorsqu'il y avait cette tempête-là, il n'y a pas le prince héritier, il n'a pas de garçon, etc., que lorsque c'est calmé, il veut résoudre le problème une fois pour toutes. Je pose la question à nos collègues, les Japonais, c'est pas seulement qui a parlé, à M. Eto, mais à tout le monde. Merci bien.
Mais si c'est la possibilité de l'impératrice. Oui, attendez un peu, avant de répondre, j'aimerais écouter votre question. Alors, monsieur Eto, répondre pour ces deux questions, s'il vous plaît.
Pour la possibilité de l'impératrice, on a bien discuté, peut-être c'était 2005 ou 2006. Mais, comme j'ai indiqué tout à l'heure, ils ont eu un fils. Donc, ils ont arrêté. Et puis... Et puis, il y avait le changement de la majorité dans le gouvernement. Et puis, le gouvernement actuel n'aime pas, est très, très, est très...
conservateur.
Est très conservateur. Alors, donc, il ne veut pas que l'empereur abdique à la vie. Et puis, et votre question, c'est... oui, je pense que c'est la limite de régime. peut-être au 21e siècle, est-ce que le système japonais, surtout le système de l'empereur symbolique, peut maintenir comme ça, jusqu'à maintenant? C'est une question très fondamentale et il faut bien y penser, mais toujours ça n'avance pas. Et puis si on parle sur ce sujet très délicat au Japon, alors là, beaucoup de réactions très fortes arrivent peut-être. C'est une chose très délicate au Japon.
Merci de votre réponse. Maintenant, on va recevoir les questions concernant l'exposé de messieurs Masahiro Sorabe et Pascal Jean. Oui, allez-y.
Oui, j'aurais une question à poser à Monsieur Sorabe, dont j'ai apprécié l'exposé qui permettait de retracer l'influence, finalement, de la théorie constitutionnelle française sur le Japon. Alors, vous savez que la France a pour particularité d'être le pays champion du monde des constitutions, 17 constitutions en plus de deux siècles, et vous avez bien balayé cette influence. Parfois, et à un moment, vous avez mentionné l'influence de René Capitan. Alors c'est vrai qu'en France, on a tendance à beaucoup cliver gauche-droite et on présentait souvent René Capitan comme étant un gaulliste de gauche. Je voulais savoir si parmi l'influence de la théorie constitutionnelle au Japon, il y avait également une influence de la pensée du général de Gaulle, puisque finalement c'était le théoricien dès 1946 de notre actuelle constitution, un pouvoir exécutif fort, enfin un État fort, un pouvoir exécutif qui tranche, qui véritablement incarne une fonction nationale, etc. Est-ce que cette idée, que cette théorie, cette pensée constitutionnelle a pu exercer à un moment ou à un autre une influence sur, parce que je sens justement, ce discours était en 1946, sur la pensée constitutionnelle japonaise?
Alors, merci pour la question, très intéressante. En fait, les auteurs japonais s'est intéressé beaucoup à la 5e République, la constitution de la 5e République, mais c'est pas pour la raison que c'est une constitution à se référencer, parce que on s'est intéressé particulièrement comme un modèle de la transformation du constitutionnalisme contemporain. Donc on pense que cette constitution de la 5e République est une sorte de dérive au constitutionnalisme moderne, dans lequel le centre de pouvoir doit être le Parlement. Alors que la Constitution de la 5e République, c'est le président de la République qui est au centre du pouvoir. Donc, on n'a pas pensé que la Constitution japonaise prendre cette Constitution de la 5e République pour un modèle, mais pensé que la constitution de la 5e République est un phénomène qui symbolise une transformation de le constitutionnalisme. Donc c'est un intérêt purement scientifique, pas pratique, pour se servir d'outils de interpréter ou modifier la constitution japonaise. Voilà.
Merci, M. Sorabe. Y a-t-il d'autres questions? Oui, allez-y.
Oui, bonjour. J'avais une question pour Pascal Jean. Alors peut-être que quelque chose m'a échappé parce que je suis sorti quelques instants. Peut-être que vous y avez répondu. Donc c'est à deux reprises ces dernières années, les deux chambres ont été politiquement en opposition. Et donc je voulais savoir, je crois qu'on appelle ça la période de diète tordue. Et donc je voulais savoir si ça a un impact sur la production de la loi, si, je ne sais pas, peut-être que les choses sont ralenties ou... Enfin, Alors, politiquement, est-ce qu'il y a des conséquences? Enfin,
Justement, j'ai lancé la question sur la commission de conciliation, parce qu'en fait, en dernier lieu, de toute façon, c'est la Chambre des représentants qui décide, et surtout le fonctionnement du parlementarisme au Japon, et je crois qu'on a beaucoup à apprendre là-dessus, mais notamment par rapport à ceux qui critiquent le fonctionnement de la 5e, c'est un fonctionnement qui est totalement différent, parce que comme la base, c'est quand même un bicamérisme, on va dire inégalité entre les deux chambres, mais la réalité, c'est que les textes de loi sont négociés en amont. En réalité, tout est fait en amont. Au Japon, je ne sais pas s'il y a une culture du consensus particulier, mais en tout cas, il y a une culture du travail très en amont du texte de loi, avec les partis majoritaires, qu'ils soient à la Chambre des conseillers ou qu'ils soient à la Chambre des représentants, ce qui fait que lorsque le gouvernement... le gouvernement ou c'est une initiative parlementaire, mais le processus est différent, mais la méthode quelque part de travail est la même. Lorsque le texte arrive en discussion finalement devant les chambres, qu'elle soit en réalité, le texte il est quasiment définitif, c'est-à-dire que le droit d'amendement qui est reconnu aux parlementaires, enfin quand j'ai eu les chiffres, c'est étonnamment bas, pour ne pas dire ridiculement bas par rapport à ce que, par rapport à nous, les parlementaires français. Et ce que je trouve intéressant, mais je suis assez, à titre personnel, je l'ai écrit par ailleurs, Michel Amler est aussi de cet avis-là, enfin, il était de cet avis-là, mais on est quand même plusieurs à avoir pensé, c'est que, est-ce que véritablement le rôle des parlementaires, c'est de discuter, voire de rediscuter, de remettre en cause les options qui ont été décidées en amont, notamment par l'exécutif? C'est une question intéressante parce que, précisément, le travail préparatoire de réflexion se fait avec le gouvernement et les partis politiques, et les groupes politiques. Et le Parlement n'est pas là pour défaire le compromis. Il est là pour aménager à la marge le texte, mais il n'est pas là pour défaire ce qui a été fait en amont. C'est ce qu'on appelle, c'était Jean-François Copé, la coproduction législative avec le changement, avec la révision de 2008. Il avait quelque part pas tort, parce que ça a été dans ce sens-là. Mais à minima, en France, à minima. Au Japon, par exemple, le texte qui est mis en séance plénière, c'est le texte adopté par les commissions. En fait, c'est le texte qui a été présenté par le gouvernement, enfin, quand je parle d'un projet. Donc, il n'y a pas fondamentalement un impact de ce point de vue-là. Alors qu'en France, il peut y avoir un impact. Au Japon, il n'y en a pas. Donc, qu'elle soit opposée ou qu'elle ne le soit pas, fondamentalement, de toute façon, la question ne se pose pas dans les mêmes termes que chez nous. C'est ça qui est relativement intéressant. Et quand on fait c'est vrai, quand on s'intéresse au droit parlementaire français, et notamment les constitutionnalistes, ils sont très sourcilleux, notamment sur le droit d'amendement des parlementaires. C'est une question qui revient périodiquement, mais la question ne se pose pas du tout en ces termes-là, et pas qu'au Japon d'ailleurs. Hein. Le Japon ne fait pas exception de ce point de vue-là. Donc voilà, donc la question, ne se pose pas en ces termes-là. Mais justement, on a beaucoup à apprendre, nous, de ce fonctionnement-là, parce que ce n'est pas parce que le Parlement et les parlementaires n'exercent pas un droit quasiment, je ne vais pas dire absolu, parce qu'il y a des limitations, mais en tout cas, un réel droit d'amendement, que pour autant, c'est la négation des droits du Parlement, parce qu'en fait, ils agissent différemment et en amont. Et c'est peut-être là, en réalité, le véritable impact des parlementaires, plutôt que la séance plénière ou la commission. Voilà, c'est vraiment l'interprétation telle que...
C'est une forme de lobbying, quoi, je sais pas.
Ben, c'est pas forcément... Ben, d'abord, le lobbying, il existe, mais c'est une forme, c'est une culture de la négociation, enfin, entre partis majoritaires et le gouvernement. Mais de toute façon, il y a une alliance par définition. Donc, voilà, alors après, le gouvernement, ça reste quand même un exécutif. C'est quand même lui qui fixe la ligne. Mais comme dans tout les régimes, en réalité, c'est l'exécutif qui est dominant. Enfin, je veux bien, moi, qu'on discute sur les droits du Parlement, la place du Parlement, on peut toujours regretter ça. La réalité, c'est qu'on a affaire à des régimes parlementaires majoritaires. C'est ça, la réalité, aujourd'hui, des régimes parlementaires. Alors, il y a toujours des exceptions, on pourra toujours dire qu'il y a des exceptions. Mais c'est quand même la logique. Donc, ce sont des régimes parlementaires majoritaires, et évidemment, ça a des conséquences sur la procédure parlementaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre questionnement.
Merci, monsieur Pascal Jean. Y a-t-il eu quelques commentaires de la part des publicistes japonais à l'égard de cette comparaison tout à fait intéressante de bicaméralisme? Allez-y.
Alors, je vais compléter ce qu'on a parlé tout à l'heure sur le bicaméralisme japonais. En fait, je fais deux ou trois remarques. Premièrement, en fait, c'est vrai que la diète japonaise ne fonctionne pas très bien. La réforme est assez retardée par rapport à la réforme de l'exécutif qui a reçu une large réforme dans les années 90 que j'ai mentionné dans mon intervention. Et deuxième, c'est en ce qui concerne le projet de loi est largement examiné même avant de dépôt à la diète, c'est qu'il y a deux raisons que les auteurs politistes japonais ont proposé. Premièrement, c'est que le pouvoir politique ou les ressources politiques du Premier ministre étaient assez faibles par rapport au patron dans le parti majoritaire. Donc, il faut consulter les patrons dans le parti majoritaire avant de déposer un projet de loi à la diète. Et deuxièmement, c'est un point de vue institutionnel. En fait, le gouvernement n'a pas beaucoup de moyens pour intervenir dès que un projet de loi a été déposé. Donc, il n'y a pas, bien sûr, un pouvoir tel que le fameux 49-3 de la Constitution française, ni le gouvernement ne peut pas déterminer l'agenda parlementaire. Donc, une fois un projet de loi déposé à la diète, le gouvernement n'a rien à faire pour faire discuter le projet de loi dans le Parlement. Donc, c'est pour ça que le gouvernement a bien préparé le projet de loi pour que ce texte a voté sans modification. Donc, c'est pour ça, c'est une raison institutionnelle très importante pour que cette pratique a été déployée. Donc, c'est pas une différence de culture, oui, ça existe, cet élément, mais en même temps, il y a une raison institutionnelle qui existe. Donc, c'est de ma point de vue. Merci.
Merci, merci beaucoup, M. Sogabe. Et j'aimerais continuer ce débat, mais maintenant le temps est assez dépassé. Alors, grâce à les exposés tout à fait intéressants et excellents, et après la discussion tout à fait substantielle, on a résultat tout à fait fructueux dans cette séance de matin. Merci beaucoup de votre coopération.